Mesdames, Messieurs, je dois d'abord faire appel à votre indulgence. J'ai accepté d'être inscrit parmi les orateurs de ce matin. Je n'ai pas rédigé de rapport et ce que je vais verser au débat, ce sont seulement quelques réflexions assez banales, très incertaines de leur validité définitive et qui pourront peut-être vous paraître décousues. On a souvent l'habitude de dire que le problème du sous-développement n'est pas neuf. Que le sous-développement n'est pas neuf et que serait neuf seulement la conscience que les sous-développés auraient prise de leur disgrâce et la volonté qu'ils auraient conçue d'en sortir. Cela ne me paraît pas tout à fait exact. Certes, les transformations psychologiques qu'entraînent par exemple la diffusion du cinéma et de la radio, le fait qu'un habitant d'un pays sous-développé maintenant a toujours vu une rue de Londres, une rue de New York ou une rue de Paris sur un écran, alors que son grand-père en avait seulement entendu parler. Cette transformation psychologique est essentielle et elle est inéluctable. Mais il y a aussi des changements dans les faits, des changements objectifs. Et le principal, presque tout le ce qui demeure purement objectif dans le problème actuel du sous-développement vient du médecin. C'est le développement de la médecine, en particulier de la médecine préventive, des vaccins, de la destruction des vecteurs des grandes maladies endémiques par la DDT. Le développement des infirmières dans les pays sous-développés qui, en engendrant un asynchronisme entre les rythmes du progrès de la production agricole et ceux de la population, ont fait du monde sous-développé quelque chose d'absolument différent de ce que nous-mêmes avons pu en connaître dans notre enfance. Il est banal absolument de le dire, mais il n'y a actuellement aucun économiste classique plus actuel que Malthus, et les données essentielles du problème du sous-développement, Malthus les avait prévues. Avec cette différence, que ce que Malthus avait en tête lorsqu'il parlait d'une pression naturelle de la population sur les subsistances, c'était des famines périodiques auxquelles les hommes se trouveraient en but lors des mauvaises récoltes. La famine n'est pas une chose nouvelle. La dernière famine meurtrière, très sensible, en France date de 1857. C'est-à-dire d'à peine plus de 100 ans. Seulement, la famine, autrefois, était un phénomène périodique, épidémique, et elle est devenue maintenant un phénomène endémique et constant. Si chacun de nous pouvait voir tous ses ancêtres depuis quelques centaines d'années, nous en avons beaucoup, et faisait le compte de ceux qui sont morts de faim. Il est probable que la proportion dépasserait 50% pour nous tous. Mais comment est-ce que ces gens sont morts de faim? Ils sont morts parce que certaines années, la récolte était mauvaise. Il n'y avait pas de commerce international des subsistances à longue distance. Les années où la récolte était mauvaise, des gens mouraient et en plus, on mangeait les semences de l'année suivante. Si bien que l'année suivante, on semait moins et que même si les circonstances météorologiques étaient alors favorables, on avait de mauvaises récoltes pendant un certain nombre d'années, par défaut de semences. Et puis, au bout de 2, 3, 4 ans, c'est très facile à suivre lorsque on retrouve, fabrique des courbes de mortalité avec les registres des enterrements des paroisses, par exemple dans le nord de l'Allemagne au XVIIIe siècle. Au bout de quelques années, très facilement, le nombre de la population ayant baissé, le soleil donnant un rayon plus chaud, quelques accapareurs qui avaient gardé des blés depuis longtemps, ayant décidé de les mettre sur le marché pour les semences, on revoyait paraître des années de vaches grasses. C'est-à-dire que un grand nombre de nos ancêtres sont morts de faim. Ils sont morts de faim après être restés sans manger 50 ou 60 jours, qui certes ont été désagréables, mais pendant la majeure partie des jours de leur vie, ils ont mangé à leur faim. Et il y a même eu des années où ils ont mangé très largement, quelle qu'ait été leur situation sociale. La famine à laquelle étaient en butte les paysans européens du Moyen-Âge et jusqu'au début du XIXe siècle, c'était une famine épidémique, périodique, qui enlevait les gens rapidement et laissait place à une relative abondance pour tous. Il n'en va plus de même aujourd'hui. La diffusion, les progrès des transports à longue échéance, les progrès de la médecine qui permettent d'empêcher de mourir des gens qui sont sur le bord de la famine, ont transformé la famine en une maladie endémique. Ce qu'il y a maintenant, ce n'est plus de temps en temps une mortalité immense due au défaut de nourriture, c'est qu'il y a 2 milliards d'hommes qui sont constamment, toute leur vie, sous-alimentés et dont beaucoup n'ont jamais, de leur naissance à leur mort, fait un repas suffisant. Cela, c'est nouveau. Ce n'est pas du tout le problème du sous-développement, mais il me semble qu'il est important, tout en reconnaissant que je schématise un peu, de tenir compte de ce fait nouveau. Maintenant, je ne crois pas que il y ait, je le dis d'une façon trop crue, mais je ne veux pas abuser de votre temps, est-ce qu'il y a un espoir au plan global et pour l'ensemble du monde sous-développé, dans un avenir prévisible, de supprimer cette famine endémique, cette sous-alimentation chronique et générale de la majeure partie des habitants de notre globe? Je ne le crois pas. Je crois que les perspectives d'accroissement de la population sont telles qu'il est à peu près inimaginable que la production agricole puisse suivre et que nous approchons du moment où nous toucherons la limite absolue des progrès possibles de la production agricole avec les données dont nous disposons. Un certain nombre d'illusions ont cours ici. D'abord parce que, si ce que je dis est vrai, c'est tellement triste qu'on tâche de ne pas y croire. Et c'est normal. Et moi aussi, j'essaye de ne pas y croire. La seconde raison, c'est que il peut y avoir progrès de niveau de vie, des progrès de niveau de vie trompeurs, qui cache une aggravation de la famine. Je me rappelle avoir vu des statistiques brésiliennes de 1955, je crois, qui étaient basées sur 100 en 1938. Le revenu national était de 250. Le revenu national par tête, sur la base 100 en 1938, était de 150. Mais la consommation alimentaire par tête était de 90. C'est-à-dire que les Brésiliens avaient plus de bicyclettes, plus d'appareils de radio, plus de téléphones, mais qu'ils mangeaient moins bien encore que leurs ancêtres immédiats, que leurs pères d'avant la Seconde Guerre mondiale ou leur grand frère, qui déjà mangeait très mal. Très souvent, dans des pays sous-développés, on a l'impression d'un progrès économique qui existe, mais qui consiste tout simplement dans le développement d'un certain nombre de produits industriels dont la nécessité vitale n'est pas évidente et qui se paye par une aggravation de la situation alimentaire. La seconde illusion, c'est qu'on peut très bien développer et faire échapper à la famine un pays sous-développé. Par exemple, si les Français restent en Algérie, au fond, je crois qu'ils vont y rester. Eh bien, je crois qu'ils feront échapper l'Algérie à la famine, qui n'est d'ailleurs que relative. Mais comment? En industrialisant l'Algérie, en lui permettant de vendre des produits industriels et d'acheter des produits alimentaires. Mais ces produits alimentaires que l'Algérie alors achètera pour nourrir sa population, que le sol algérien ne peut pas nourrir. Ça sera pris sur la nourriture des Indiens, des Chinois, peut-être des Africains de l'Afrique noire, etc. Toutes les nations ne peuvent pas ensemble devenir importatrices nettes de produits alimentaires. Et en matière de produits alimentaires, je crois que la loi des rendements décroissants est quelque chose de très sérieux, est un obstacle que nous n'avons pas vaincu. On a fait des calculs pour savoir ce que la Terre pourrait nourrir d'hommes si toutes les ressources actuelles étaient exploitées avec tous les procédés techniques actuellement connus. C'est du guess, n'est-ce pas? Mais enfin, les évaluations s'étagent entre 6 milliards d'hommes et 16 milliards d'hommes. 6 milliards d'hommes, nous les aurons atteints avant l'an 2000. 16 milliards d'hommes, au rythme actuel, nous les aurons atteints vers 2060. C'est-à-dire que nos enfants vivront encore. Et c'est le maximum absolu. Est-ce qu'il y a des chances de ralentissement de l'accroissement de la population? En réalité, non seulement la population s'accroît, elle gagne 50 millions par an environ, mais le rythme d'accroissement s'accroît sans cesse. Et toutes les prévisions d'accroissement de la population que font les démographes se révèlent toujours avoir péché par défaut. Je faisais le cours de démographie à l'Université de Paris, comme vient de le rappeler notre président, il y a 4 ans. Et j'enseignais que le taux d'accroissement mondial annuel de la population était de 1,10. Et le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 1,7, et je crois que ça, comme il y a 2 ans que je l'ai vu, ça doit déjà être 1,8 ou 1,9% par an. Toujours, l'accroissement de la population va plus vite qu'on ne l'avait prévu. Je ne crois pas qu'on puisse le freiner, à moins de recourir à la chambre à gaz massive ou à la stérilisation obligatoire massive, mais alors, j'aime mieux pas, n'est-ce pas? Peut-être vaut-il mieux un monde d'affamés qu'un monde de nuques repues. Alors, on cherchera peut-être des troisièmes solutions, on occupera peut-être la planète Mars et on en exploitera peut-être les ressources agricoles et puis des cataclysmes peuvent détruire les hommes. Mais avec les éléments de prévision dont nous disposons maintenant et dans un avenir prévisible de quelques décennies, la famine a des chances de s'étaler, de s'accroître, de s'aggraver et non pas du tout de décroître. C'est ce qui fait que chaque fois qu'on pose le problème du sous-développement dans une perspective globale et mondiale, j'avoue que je vois assez mal et que je serais tenté de faire ce qu'on peut faire dans un domaine partiel. Là où les proportions sont telles que le succès est possible. Je suis sûr que la France peut développer l'Algérie. 40 millions d'habitants, 10 millions. La proportion rend la chose possible, surtout si les autres pays ne se développent pas en même temps et si l'Algérie peut se développer à leurs dépens. L'Europe peut développer l'Afrique. L'Afrique, après tout, ça ne fait guère que entre 150 et 200 millions d'habitants. C'est tout à fait dans les possibilités de l'Europe. Les États-Unis peuvent développer l'Amérique du Sud, mais il reste alors les immenses masses d'Asie, et je ne sais pas ce que l'on peut faire. Ma tendance, vous la trouverez peut-être égoïste, ça serait de se dire que l'Europe s'occupe de l'Afrique. Elle peut réussir. Que les États-Unis s'occupent de l'Amérique du Sud, ils peuvent réussir. Puis l'Asie, c'est pour la Grande-Bretagne, elle fera ce qu'elle pourra. On l'aidera. C'est peut-être étroit. En réalité, loin de séparer ainsi le monde en zones, ce qui aurait été, je crois, une possibilité d'obtenir des résultats partiels valables et, en tout cas, de ne pas démolir le monde politiquement, nous avons préféré jouer tous sur tous les tableaux en même temps et les uns contre les autres. Le chaos des politiques du monde occidental vis-à-vis des pays sous-développés, il a été révélé par le chaos congolais. Mais M. Karl Brandt, M. Hugo Papi faisaient allusion tout à l'heure, c'est quand même une affaire incommensurable de penser que les pays d'Europe et d'Amérique rivalisent les uns contre les autres et n'ont absolument rien fait jusqu'à présent pour véritablement coordonner leur politique. Sous des formes diverses, avec des rythmes divers, la France, l'Angleterre, la Belgique ont poursuivi une certaine politique de décolonisation en Afrique. Mais il n'y a absolument pas eu d'accord, ni sur le calendrier, ni sur les méthodes, ni la façon de présenter les choses. Et nous nous sommes nuis les uns aux autres. Et je crois que chacun de nos pays peut dire qu'il a compliqué la situation du voisin, soit en le voulant, quelquefois, soit sans le vouloir, mais c'est coupable également. Les États-Unis n'ont pas soutenu l'Europe en Afrique. De temps en temps, ils marquent un peu de bonne volonté, mais dans l'ensemble, comme le disait le professeur Karl Brandt, nous avons l'impression, et les pays sous-développés d'Afrique ont l'impression, que chaque fois que l'Europe perd un point, en Afrique, les États-Unis sont bien contents. Et puis, nous avons alors laissé envahir la politique mondiale par les pays sous-développés, particulièrement d'Afrique et d'Amérique du Sud. L'Inde, la Chine, ont peu de poids, au fond, dans la politique mondiale, relativement à leur vraie importance. Mais passons à l'Afrique. L'Afrique qui n'a pas 200 millions d'habitants. Eh bien, rien que la France a fait entrer aux Nations Unies, ça fait 24 petites nations, dont toutes ont moins de 4 millions d'habitants, et qui ont toutes, il y a 99 membres des Nations Unies, il y a 25 petites nations que la France a fait entrer. En tout, ça fait une population guère supérieure à celle de la France. Ils ont 24 voix, la France en a une, les États-Unis en ont une, l'Allemagne en a zéro. Dans l'Assemblée des Nations Unies. De même, si ces nations d'Afrique faisaient bloc, et si elles faisaient bloc avec les nations de l'Amérique centrale et de la partie de l'Amérique du Sud où il n'y a pas de grands pays, elles auraient à l'Assemblée de l'ONU la majorité, même probablement la majorité des deux tiers. Alors que ces pays représentent une population très faible, une richesse nulle, des traditions à peu près inexistantes. Cette partie du monde n'a absolument aucun titre à gouverner, au moins plus que son poids normal, et c'est à elle que pratiquement nous sommes en train de livrer l'Organisation des Nations Unies. Alors on peut peut-être avoir un monde ordonné sans Nations Unies, mais il faudrait les remplacer par quelque chose. Comment remplacer par quelque chose après ce que nous avons fait où les majorités n'appartiennent pas d'une façon automatique à ceux qui sont la minorité comme population, les plus pauvres, les plus jeunes, les plus sans expérience. Pensez qu'il y a maintenant en Afrique, par exemple, 30 gouvernements indépendants. Ça fait 600 ministres qui passent presque tout leur temps en avion
de conférence internationale en conférence internationale, et qui, évidemment, finissent par avoir beaucoup de poids, surtout qui sont très bavards et infatigables, et a joué un rôle qui n'a aucun sens. Alors, je suis bien persuadé qu'une certaine décolonisation était nécessaire, c'est-à-dire un processus d'évolution sociale. Mais ces indépendances données à des nations qui n'existaient pas, ces nationalismes qu'on crée, on crée la nation pour créer un nationalisme qui ne lui préexiste même pas, et au fond pour donner l'occasion à des petites équipes de gens fraîchement sortis des universités, d'avoir des portefeuilles et des Marocains, et de se promener à travers le monde. Ce n'est même pas très respectueux de leur dignité à eux, de leur donner des rôles dont, quand ils sont raisonnables, il y en a qui sont, ils savent qu'ils n'ont pas la possibilité de les remplir et qu'ils n'en ont pas la vocation. Alors, je ne peux pas, hélas, conclure autrement que de façon très pessimiste, comme le professeur Karl Brandt. Nous avons démoli, de nos mains et par nos divisions, quelque chose qui appelait beaucoup d'adaptation, certes, pour survivre, et que nous avons remplacé par rien du tout, par une grande menace contre nous-mêmes, dont pâtissent à la fois les pays sous-développés et la civilisation dont nous sommes les porteurs. Je suis bien convaincu que nous avons des responsabilités vis-à-vis des pays sous-développés, que nous devons nous préoccuper de leur intérêt. Mais nous ne le ferons pas vraiment en perdant, comme le disait l'autre jour notre collègue le professeur Frankel, le sens de nos propres buts, le sens des valeurs que nous portons et qui ont une portée universelle, et que nous sommes en train de sacrifier vraiment on ne sait pas à quoi. J'ai été frappé un jour par cette phrase de Macaulay, qui date d'un peu plus d'un siècle, et qui disait à un moment donné, l'Irlande, oui, mais la servitude de l'Irlande est la condition de la liberté de l'Angleterre. Je ne sais pas si c'était vrai, mais si c'était vrai, eh bien, n'est-ce pas, je crois que nous sommes tous très reconnaissants à l'Angleterre d'avoir maintenu quelque temps encore l'Irlande en servitude. Car il était nécessaire que l'Angleterre cultivât la liberté pour nous la donner à tous et enfin...